France Culture. Bonjour Diane Curis.
Bonjour Caroline.
Je vous propose pour ce troisième temps de nos entretiens à voix nue de parler de sentiments et de politique. Sentiments et politique parce que dans toute votre filmographie, donc dans vos 15 films à ce jour, 2025, on retrouve l'intimité d'un couple et on retrouve l'intimité d'une époque. Donc filmer l'intime me semble représenter assez bien ce que vous faites. Alors on va peut-être commencer par le temps ou l'histoire. Diabolomante, dont on a parlé dans le deuxième épisode, Cocktail Molotov, qui se passe en 68, Coup de foudre, c'est les années 40-50, La Baule les pins, c'est les années 50, Pour une femme, c'est les années 40. Vous avez à cœur de filmer une époque, et je suppose que il y a du plaisir, mais il y a aussi des contraintes, des difficultés, un souci du détail. Si on parle par exemple de Cocktail Molotov, au hasard parce que hier dans le deuxième épisode nous avons sauté cette partie de mai 68 dans votre vie, mais elle a été importante et vous l'avez reconstituée dans Cocktail Molotov. Dans Cocktail Molotov, donc ces années 68 où en gros on voit un road trip dans lequel les personnages courent après la révolution et la politique justement se mêle aux sentiments, vous filmez des gens qui ont 20 ans en 68 comme vous. C'est des costumes, c'est de la musique, c'est des émissions de radio, c'est des images de télé. Voilà. Donc, reconstituer l'époque, ça ne vous fait pas peur?
Ben, c'est très agréable de reconstituer des époques. J'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, je pensais que je ne savais faire que ça. Quand j'ai fait mon premier film que j'appelle Contemporain, c'était un film qui s'appelait Après l'amour avec Isabelle Huppert et Bernard Giraudot. J'avais peur, je me disais, je vais pas arriver à parler d'aujourd'hui. Habiller les gens comme aujourd'hui, à les faire parler comme... Je me disais, je vais être perdue. J'avais l'impression que je ne savais faire que reconstituer, justement. Parce que mon parcours, c'était Diabolomante, Cocktail Molotov. C'est un plaisir, de la reconstitution. C'est un...
Oui, bon, parce c'est une reconstitution d'une époque pas très très lointaine, quand
non,
même.
Non, mais...
Entre 15 et 30 ou 40 ans en arrière.
Ah oui, mais quand même, reconstituer la guerre, oui, oui. Les années 40, les années 50, c'est quand même tout un... Alors, c'est de plus en plus dur. Aujourd'hui, on ne trouve plus même un coin de rue qui ressemble aux années 50. C'est devenu très compliqué. Quand j'ai fait ce film pour une femme à Lyon, il a fallu qu'on reconstitue entièrement une rue années 50, c'était très... Parce que tout a... Oui, bien sûr, tout a changé terriblement. C'est de plus en plus cher et de plus en plus lourd et de plus en plus dur de faire des films d'époque. Quand je dis époque, ça peut être du 19e siècle aux années 40-50, c'est compliqué. D'abord, le son, on ne peut plus tourner dans la rue. Enfin, c'est compliqué. Il faut tourner dans un bois, dans un parc. Vous voyez, c'est devenu... Mais moi, j'ai toujours aimé ça. C'est comme des plaisirs multiples. Aller retrouver le vrai stylo de l'époque qu'on utilisait, la vraie boîte d'allumettes, le vrai costume, comment on s'habillait. C'est plonger, en fait, dans la mémoire collective. Et quand on raconte les destins de gens qu'on a imaginés ou qu'on a connus, c'est encore plus passionnant parce que c'est eux, dans cette époque, qu'on resitue. Donc, c'est très agréable. Et quand j'ai fait Cocktail Molotov, l'idée de Cocktail Molotov, c'est vraiment... On va prendre trois adolescents, trois jeunes gens de 20 ans. Bon, j'avais 20 ans en 68, en mai 68, qui vont quitter Paris, faire un voyage et avoir l'impression qu'ils sont en train de rater les barricades. Et en fait, ils vivent mai 68. Eux, ils le vivent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ce qu'ils vivent, c'est l'émancipation, la liberté. Symboliquement, la petite Anne, elle enlève son soutien-gorge, elle jette son soutien-gorge dans la nature. Il y a comme ça une espèce d'idée de, voilà, on va découvrir ce que c'est que ce mouvement-là à travers la vie de ces trois jeunes gens. Leur amour, leur trio va constituer finalement une sorte de symbole de mai 68. Moi, quand j'ai vécu mai 68, j'étais à Paris et j'étais étudiante, enfin, mais j'allais pas sur les barricades et j'allais le matin sur les barricades pour respirer l'odeur. Je trouvais que c'était un moment fabuleux de liberté, fabuleux de... En fait, le sentiment qu'on avait quand on avait 20 ans, 68, c'est très nostalgique ce que je vais dire, mais on avait le sentiment que c'était à nous de donner les cartes. Voilà, c'est à nous maintenant. Ce sentiment-là est resté très, 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 très fort et très marquant pour moi. Et j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais arrêté.
Pour vous?
Oui.
Vous avez de la chance.
Je suis une des seules. J'avais vraiment ce sentiment que, voilà, on nous a maintenus dans un silence, on n'avait pas le droit à la parole. Et maintenant, ça y est, voilà. Maintenant, on peut prendre la parole, on peut dire et on peut exister. voilà, je me souviens très 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 bien de ce sentiment-là, de cette notion-là. Donc j'ai fait ce film qui s'appelait Cocktail Molotov, un peu dans cette idée-là, pour ça, pour montrer comme, qu'est-ce que ça pouvait symboliser, représenter. Et c'était passionnant de les habiller. Habiller François Cluzet, c'était son premier film, avec la parka verte, l'écharpe rouge, le t-shirt blanc, le jean noir. C'est tellement symbolique de cette époque-là. Alors c'est quelque chose qui ne s'est pas démodé. On peut s'habiller encore aujourd'hui comme ça. Alors, on était bien après mai 68, quand j'ai fait le film, évidemment. Mais c'était très, très, très plaisant et agréable et jubilatoire de chercher. Quand on a fait La Baule les Pins, on a fait sur la plage du Pouliguen, où on tournait à côté de La Baule, on a fait des panneaux pour les gens et on disait, si vous avez des vieux parasols, des vieux seaux, des vieilles pelles, amenez-les et donc apportez-les. Et donc là, sur la plage, venaient des gens qui apportaient tous les vieux transistors, etc. On avait comme une espèce de caverne d'Ali Baba dans laquelle on avait tous les vieux... Et c'était que des petites madeleines, c'était que des vieilles odeurs d'ambre solaire. Enfin voilà, moi je suis peut-être... Et je ne suis pas nostalgique, c'est-à-dire je n'ai pas le regret de ça, mais j'ai l'amour de ça, voilà.
En même temps, c'est un peu votre époque fétiche, ces années 50. Les années 40, vous ne les avez pas connues, mais les années 50, d'abord, vous les avez connues enfant, vous étiez petite, mais quand même, vous les avez connues, vous les avez vécues, donc sans doute des images, des objets se sont imprimés dans votre rétine, et puis vous les avez donc beaucoup filmés, parce que même si je pense à Sagan ou à Moi qui t'aimais, qui filme le couple Montand Signoret, il y a encore ces années 50. Alors, est-ce que c'est... plus difficile, parce que quand je pense à ces deux films, c'est aussi des sagas qui durent sur plusieurs décennies. Puisque Sagan, vous l'a filmé de la sortie de Bonjour Tristesse à sa mort en 2004. Moi qui t'aimais, dans le rapport, le couple, Montand Signoret, vous les filmez aussi sur des décennies. Est-ce que c'est plus dur de faire plusieurs époques dans un même film? Est-ce que vous en donnez de plus en plus, Diane Curis?
Non, c'est évidemment plus dur quand on traverse plusieurs épooques. Avec Moi qui t'aimais, je vais de...
C'est un peu plus réduit.
C'est 12 ans, donc c'est de...
C'est pas plusieurs décennies.
72, 73, jusqu'à la mort de Signoret en 85. Elle est morte il y a exactement 40 ans. C'est l'anniversaire de sa mort cette année, les 40 ans de sa mort. C'est plus dur quand on traverse plusieurs époques, évidemment, parce que c'est plus cher, c'est plus compliqué, il faut changer de costume, il faut changer de tout. Les sacs sont plus les mêmes, les chaussures sont... Enfin, rien n'est plus pareil. Mais c'est... Encore une fois, c'est un plaisir aussi de spectateur. Moi, je suis la première spectatrice. Quand l'ensemblier ou le décorateur ou quelqu'un m'apporte un petit carnet de l'époque ou un fume-cigarette, je suis à chaque fois épatée. C'est des objets qui deviennent symboliques, des fétiches. Je sais pas, j'ai un plaisir de ça. J'ai un plaisir du passé, j'ai un plaisir de reconstituer.
Ouais. On est chez vous, à Paris, là, pour enregistrer ces Awanus. Quand je tourne la tête dans le salon où vous nous recevez, Diane Curis, je ne vois pas non plus une espèce de fétichisation des objets. Il n'y en a pas partout. Non. Est-ce qu'il y a des objets d'antiquité? Est-ce qu'il y a des objets d'époque?
Non, il n'y a pas... Je regarde, non. Oui, il y a des objets d'époque, mais pas beaucoup. Et il y a pas... Vous voyez, il y a peu de choses, quoi. Finalement, c'est assez nu. Je ne suis pas une collectionneuse, mais c'est vrai que les années 50, c'est un tout petit peu mes années préférées, je dois reconnaître. Je suis moins à l'aise avec aujourd'hui.
Et avec le 19e siècle, puisque vous avez tourné Les Enfants du siècle, Musset, Sand, on est les années 1830-1840.
Là, il fallait que je m'appuie sur...
Tout autre chose. Là,
il fallait, sur Les Enfants du siècle, il fallait que je m'appuie sur l'iconographie et puis l'aide de... Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Maxime Robière, qui est directeur artistique. Il m'a fait découvrir le 19e siècle à sa façon. Je me souviens que quand je l'ai rencontré, on a traversé Paris, on a fait tous les passages de Paris, dans le 9e, le 2e, etc. On a passé une journée, j'étais tellement épuisée le soir, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il peut me montrer? Il m'a montré tous les passages, parce que c'était ça, l'époque du 19e, voilà. Donc il m'expliquait, il me disait, ça c'est 18e, et ça c'est fin 18e, etc. J'ai compris grâce à lui l'époque. Donc j'ai pu entrer dans le film vraiment facilement. C'est lui qui m'a présenté Christian Lacroix pour les costumes. C'était la première fois que Christian Lacroix faisait des costumes de film. Et c'était passionnant à faire. Alors, je ne dis pas que je n'étais pas intimidée, mais tout était intimidant. Le dialogue était intimidant, les personnages étaient intimidants. Mais c'était intéressant. C'était beau d'essayer de les approcher. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est tout près à l'échelle du temps et de l'histoire depuis la création de la Terre. C'est très petit. Le temps qui s'est passé entre 1832 et aujourd'hui, c'est rien. Donc ces gens pensaient, aimaient, vivaient, mangeaient comme nous, au fond. les rendre modernes, les rendre contemporains, c'était ça le pari. Et de montrer un film où on montrait des gens. Alors, vous verrez que le cinéma, c'est une image, c'est pas pareil. Mais quand même, on les montrait tels qu'en eux-mêmes, tels qu'ils auraient pu être dans leur... Georges Sand à Nohant, et Musset dans son, chez lui. Musset, il a vécu à deux pas d'ici, à trois maisons. Pendant toute sa jeunesse, il allait au lycée Henri IV. Il traversait le Luxembourg tous les jours pour aller au lycée. Donc, il y avait une proximité que je découvrais, parce que c'est très intimidant de dire « je vais faire un film sur le 19e, je sais pas, Balzac, Stendhal, tout ça, c'est compliqué ». En fait, ça nous apprend des choses. Et moi, j'avais envie de transmettre ce que j'étais en train d'apprendre.
Filmer une époque, c'est pas seulement les décors et les costumes, Diane Curie, c'est aussi, bien entendu, l'inscrire dans une temporalité, l'inscrire dans un contexte historico-politique. Il y a toujours des événements qui jalonnent l'histoire et qui agissent sur les personnages dans vos films. Dans Diabolomante, c'est la fin de la guerre d'Algérie, hein. Mm-hmm. Donc il y a déjà le métro Charonne en 1962 qui est raconté dans une scène dont je me souviens encore, je l'ai vu peut-être plusieurs fois, mais...
Quand j'ai écrit Diabolomante, évidemment, je vais faire la vieille... Il n'y avait pas d'ordinateur, on n'avait aucune information en dehors de la Bibliothèque nationale. C'était les livres et les journaux, il fallait aller à la Bibliothèque nationale. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir les journaux, lire les journaux de l'époque. Donc, on les lisait sur des microfilms et on passait des heures, je passais des heures à regarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, donc 62-63, et j'ai commencé à regarder les France Soir, les matchs, tous les journaux de l'époque. Et là, un jour, je suis tombée sur la manifestation après Charonne, c'est-à-dire l'enterrement. Il y avait 5 morts à Charonne et l'enterrement qui a suivi la manifestation terrible qui a provoqué des morts. En fait, les gens avaient été coincés dans le métro par la police. Et donc, j'ai lu un récit, et ce récit, je l'ai recopié, parce qu'on ne pouvait pas faire de photos, photocopier, rien du tout. Donc, j'ai recopié une partie du récit qui était dans Paris Match. Et cette idée m'est restée, j'ai dit, il faut qu'une des petites filles raconte cette histoire. Et donc, en fait, je l'ai volée à Paris Match. Et c'est Corinne Dacla, dans le film, qui raconte qu'elle était à l'enterrement, et qu'elle a vu ça, et son émotion, et il y avait des fleurs blanches, parce que c'était des enfants.
C'était quoi cette manifestation ?
La manifestation de Charonne a été une manifestation pro-algérienne, enfin pour les Algériens, et elle a été très réprimée par la police, par les CRS, ils ont vraiment provoqué la mort de 5 personnes, qui se sont réfugiées dans le métro, mais les grilles étaient fermées, donc ils ont été écrasés contre les grilles du métro. A suivi un enterrement absolument gigantesque à Paris, où tout le monde est sorti, est allé manifester. La plupart des gens étaient horrifiés. Moi, je devais avoir 15 ans, je ne sais pas quel âge j'avais. Et donc, j'ai fait raconter l'enterrement qui suit la manifestation, qui était une manifestation de gauche. Enfin, c'était Et en fait, j'ai pris ça dans les informations du journal, quoi.
Dans Cocktail Molotov, évidemment, c'est mai 68 qu'on a commencé de raconter tout à l'heure. La Deuxième Guerre mondiale, évidemment, dans Coup de foudre, dans Pour une femme. Est-ce que ces connaissances qui sont les vôtres passent également, vous avez dit, les journaux que vous étiez allé voir, ce qu'on voit dans vos films, c'est-à-dire des archives audio. Il y a beaucoup de transistors, ouais. Des postes de radio qu'on allume et on entend les nouvelles. Il y a des archives à la télévision aussi qu'on voit et qui disent les qui raconte l'époque, des récits, des témoignages, c'est tout ça qui nourrit.
Bien sûr, et c'est important. Aujourd'hui, bon, les témoignages, ça y est, les gens de la guerre, en tout cas, les gens sont morts ou ils sont en train de disparaître tous, donc il y aura plus de paroles. Donc on trouvera effectivement des archives, des documents. Il y avait les livres. Quand j'ai parlé pour une femme de ce qu'on appelait les vengeurs, ceux qui après la guerre, sortant des camps, avaient décidé de tuer tous les nazis qu'ils pouvaient rencontrer. Bon ben il y en a eu des groupes entiers de gens qui sont partis tuer. Il y a un livre qui s'appelle Les vengeurs. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs récits qui ont été faits de cette époque-là. Et donc j'ai fait de cet oncle Jean. Et c'est pas tout à fait vrai. J'en ai fait un vengeur, un tueur de nazis d'après la guerre. Bon, ça m'intéresse et je me dis que ça va intéresser les gens. Voilà. Je dis que j'ai envie de partager avec le public et que c'est vrai qu'une histoire, elle peut pas être comme ça, désincarnée totalement. Ça pourrait. Mais j'aime bien quand les histoires sont inscrites dans un contexte historique, politique, effectivement, sociologique. Enfin, voilà.
Oui, parce que vous intéresse aussi la rencontre entre une histoire collective et une histoire intime et vice-versa.
Bah oui, moi c'est ça qui me plaît.
Ces couples, ils sont dans une époque, encore une fois.
Oui.
Enfin, ces couples, parce qu'on va y venir à la petite histoire de ces couples, mais ces couples, ils vivent dans une époque. Ils ne sont pas en dehors.
Ils ne sont pas désincarnés.
Hors contexte.
Ouais. Non, ouais, ils sont dans un contexte, bien sûr, toujours. Mais c'est ça qui est intéressant quand on... Et les biopics, pareil, enfin, c'est le contexte qui fait que... Et pour Montansignoret, c'est pareil. Leur époque, c'est ce cinéma-là, c'est le cinéma de Claude Sautet, c'est ces années-là, c'est la politique qui les prend. Montansignoret, ils sont très proches du communisme au début. Quand ils vont en URSS, ils s'aperçoivent que, oulala, mon Dieu, c'est pas du tout ce qu'on a imaginé. Quand ils reviennent, bah, c'est là que l'Amérique leur tend les bras. Enfin, ils ont fait le grand écart. Tous leurs amis communistes leur reprochent la trahison, entre guillemets, puis eux, ils restent fidèles à ce qu'ils ont pensé en revenant, quoi, que c'était pas terrible. Donc, c'est intéressant d'en parler. C'est toujours difficile de pas être trop didactique dans un film. Il y a une scène dans Moi qui t'aimais où Signoret et Montand, c'est tout au début, d'ailleurs, c'est la première scène qu'on a tournée dans le film, où il parle du voyage en URSS, justement. Le fameux voyage où Montand doit faire une tournée, mais il y a eu Prague, ou Budapest, pardon, il y a eu Budapest, les Russes ont envahi la ville, on récupéré la Hongrie, on dit, mais c'est pas possible, tu peux pas aller en URSS maintenant, c'est trahir le monde entier. Et donc il hésite beaucoup pendant plusieurs mois, il dit, est-ce que je vais aller faire cette tournée? Elle a pas envie, elle a envie, ils savent pas quoi faire, finalement ils y vont. Et donc, c'est là qu'il voit ce que c'est vraiment que la vie quotidienne des gens. C'est Khrouchtchev, à l'époque, qui est le chef d'État. Et donc, il raconte un dîner avec Khrouchtchev. Et c'est difficile dans un film de dire, on va vous raconter le dîner avec Khrouchtchev. Et ils ont été tellement bien, les acteurs, parce que... Roche Dizem et Marina Foïs. Quand ils le jouent comme s'ils avaient raconté cette histoire 18 fois. Ils se coupent, ils s'interrompent, comme les couples qui... raconte toujours les mêmes histoires, et il le joue tellement bien que finalement la scène passe, bon peut-être elle est pas mal écrite, mais elle passe grâce à eux vraiment, parce qu'ils la vivent. Moi j'avais très très peur de cette scène, parce qu'elle était vraiment écrite quoi. Et en fait elle passe, et ça devient la vie, et c'est de l'histoire internationale, mais ça passe dans une petite scène, dans un salon, tout naturellement. Et moi j'aime ça au cinéma, j'aime bien quand on fait passer des idées, de l'histoire, de la politique, comme ça dans un dialogue... tout à fait banal, finalement.
Et c'est comme ça que les choses s'entremêlent. Et finalement, Moi qui t'aimais, c'est vraiment un film emblématique de votre filmographie, Diane Curis. Parce que on retrouve tout. Le couple, l'amour, le désamour, l'infidélité de Montand et la souffrance de Signoret. Et puis, vraiment, cet entremêlement entre les engagements politiques et la vie amoureuse. C'est vraiment un film, me semble-t-il en tout cas, qui vous représente pleinement.
Je dois pas pouvoir m'empêcher, parce que je m'en suis pas rendu compte en le faisant, mais c'est après avoir fait le film, en le regardant finalement, au montage, et puis après, je me suis vue dedans. J'ai compris pourquoi j'avais fait ce film. Finalement, c'est aussi un film autobiographique, même si c'est pas mon histoire. Je me suis mise dedans, malgré moi, sans m'en rendre compte.
C'est aussi un couple mythique.
Mais c'est un couple mythique.
Montand, Signoret.
Ah bah.
Qu'est-ce qu'ils ont représenté l'un et l'autre pour vous?
Elle me faisait penser à ma mère. D'abord, elle est née la même année, elle est morte la même année. Donc, elles avaient exactement le même âge, pas évidemment le même parcours, mais elles étaient blondes toutes les deux. Je faisais toujours une sorte d'identification à Signoret. C'est pas que je la voyais comme ma mère, mais elle représentait cette génération-là. Des femmes libres, des femmes émancipées, des femmes qui prennent la parole, qui se laissent pas dicter leur conduite. Et puis, en faisant le film, je me suis rendu compte qu'elle était bien plus victime, sans doute, qu'elle ne le croyait ou qu'on ne le croyait. Moi, je la croyais très forte et elle n'était pas aussi forte que ça. Elle s'est quand même beaucoup détruite elle-même. Elle n'a pas hésité à s'abîmer. Elle mangeait, elle buvait, elle fumait. Elle a vécu une vie quand même dangereuse, on va dire. J'arrive pas à m'empêcher de penser parfois qu'en se détruisant, elle a voulu faire payer à Montand ses infidélités. Il y a quelque chose de... Je disais toujours ça à Martine Morricone avec qui j'écrivais, il y a une forme d'autodestruction, mais aussi de vengeance, de revanche sur lui. Elle lui dit, voilà, tu vas devoir m'assumer comme ça. Je suis devenue grosse, regarde mes rides, et je fume comme un pompier, et je m'en fous. Il y avait quelque chose comme ça de je sais pas, c'est un peu tordu ce que je dis, mais je pense qu'il y avait quelque chose comme ça.
Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, pas la façon dont on peut s'abîmer, mais malgré tout, ce qui construit au fond sur la durée ou pas, un couple, les ruptures, les trahisons, l'amour, les joies aussi que ça procure, c'est ce qu'on retrouve là aussi vraiment beaucoup dans votre œuvre. C'est-à-dire, quand je parle de filmer l'intime, il y a l'intime d'un couple. On retrouve ça dans vos films autobiographiques, mais on retrouve aussi ça dans Un homme amoureux, qui est sans doute moins, en tous les cas qui n'est pas revendiqué comme tel, dans Les enfants du siècle, bien sûr, il y a ça aussi. Peut-être même Après l'amour, mais là c'est un triangle amoureux. En tout cas, prenons-en deux autres que Moi qui t'aimais, si vous voulez bien. Un homme amoureux, donc, avec Peter Coyote, Greta Scacchi, Claudia Cardinale, Jamie Lee Curtis, Vincent Lindon. On parlera des acteurs dans l'épisode 4, ça c'est quand même très important. Ce film, Un homme amoureux, compétition, il fait l'ouverture hein, du Festival de Cannes en compétition en 1987. C'est une histoire d'amour entre deux acteurs, les deux acteurs principaux d'un film, et on est sur le tournage. Racontez-nous la genèse de ce film-là.
C'est l'histoire d'une jeune actrice inconnue qui vient tourner un film d'un metteur en scène italien connu à Cinecittà et qui tombe amoureuse de l'acteur principal. Donc, comme j'ai raconté un tout petit peu ma vie à un moment de notre entretien, vous allez voir que c'est pas complètement pas autobiographique. J'ai imaginé cette histoire parce que j'ai vécu quelque chose de très proche, voilà. Et j'ai été une petite actrice inconnue sur un film italien à Cinecittà.
D'ailleurs, la scène d'ouverture, c'est quasiment Cinecittà. Enfin, on les voit arriver à Cinecittà.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, vous avez aussi, puisque c'est nourri de l'aventure sur le film de Fellini, il se trouve que vous l'avez retrouvé le premier jour du tournage.
Oui, Fellini. Fellini, quand on est venu à Cinecittà pour faire les repérages, on est allé à il y a une petite cafétéria dans la cité. Et je suis tombée sur Fellini tout de suite. D'abord, il habitait là tout le temps. De toute façon, c'était son quartier général. Mais il m'a reconnue et ça m'a étonnée énormément parce que ça faisait quand même quelques années que j'avais tourné avec lui. J'avais tourné 3 jours. Donc, il m'avait à peine vue depuis la fameuse rencontre à l'hôtel Georges V. Il m'a reconnue. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je viens tourner un film. Alors là, il a été absolument bluffé. Il m'a dit, mais tu vas tourner un film? J'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est quoi l'histoire? J'ai dit, c'est l'histoire d'une actrice qui tombe amoureuse d'un acteur sur un film. Alors là, il a ri, il s'est moqué de moi, il a dit « Ah, très inspiré !» Et puis ensuite, il tournait à ce moment-là un film qui s'appelait « Intervista », et moi, je tournais « Un homme amoureux », et on se battait pour avoir les plateaux extérieurs de Cinecittà. Donc son équipe contre mon équipe, on était tout le temps en guerre, c'était drôle, parce qu'il disait « Ah non, aujourd'hui, c'est Fellini qui tourne là, vous pouvez pas arriver », donc on était la dernière roue du carrosse, et c'était drôle. Et je l'ai recroisé une autre fois, mais... Non, c'était fabuleux. Puis tourner à Cinecittà, c'était comme un graal. C'était magnifique, c'était drôle. C'était merveilleux.
C'est un bon souvenir, ce tournage ?
Ouais. Très bon souvenir. Ouais. Merveilleux souvenir. Oui, parce que c'est Rome. C'était un film d'amour encore un. J'aimais. Non, j'ai beaucoup aimé ce tournage, bien sûr. On était comme en vacances aussi.
C'est drôle que vous disiez un film d'amour encore un, alors qu'on est en 87.
Oui.
Enfin, le film est sorti en 87, et qu'il y en a eu bien d'autres ensuite, des films d'amour encore.
Oui, c'est par rapport à ce qu'on appelle ma filmographie. Oui, j'ai parlé beaucoup de ça. Hein.
Oui.
Mais c'était un vrai film d'amour. Il y avait vraiment des scènes d'amour, alors très osées dans ce film-là, pour l'époque, je crois. Je ne sais pas si je les tournerais d'ailleurs comme ça aujourd'hui, mais c'était des films où le langage était important, où j'osais montrer des choses qu'on ne montre pas trop au cinéma. Voilà. Moi, d'ailleurs, anecdote amusante, j'avais une petite assistante américaine, parce que je ne parlais pas... Maintenant, je parle bien anglais, mais à l'époque, je parlais un peu moins bien. Et donc, elle était avec moi tout le temps pour me parler anglais tout le temps. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, je vais te donner une liste de films où il y avait des scènes d'amour. C'était pour faire les scènes d'amour, je voulais savoir comment les filmer. Et je lui ai donné une liste de scènes dont je me souvenais. Il y avait une vingtaine de films, une quinzaine de films. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller les louer et me faire des petits montages? À l'époque, hein, c'était compliqué de faire ça. Donc, elle avait fait ça. Elle me l'avait mise sur mon lit, dans ma chambre. Je l'avais trouvée en rentrant un soir de préparation. On était encore à Paris. Et elle l'avait appelée « The fucking tape ». Et j'avais regardé ça, c'était sur mon vidéo, mon lecteur de vidéo. Et c'était affreux, parce que c'était scène après scène, des moments de scène d'amour. C'était horrible. C'était comme
scène de sexe, vous voulez dire?
Oui, scène de sexe. Ça, je voulais voir comment les gens avaient filmé, quoi. Comment ils avaient mis la caméra, comment était la lumière, etc. Et d'une scène à l'autre, ça ne me disait rien. Je me disais, mais c'est horrible. Il y avait une seule scène qui m'avait frappé, qui était vachement bien, c'était une scène dans Maria's Lovers, où tout était joué par la lumière. C'est la lumière qui faisait la scène. Ça, c'était une très belle idée.
De Konchalovsky.
C'était une très, très, très belle idée de façon de filmer cette scène d'amour. Ça, c'était... Le reste, c'était affreux. C'était affreux, je me rappelle. The fucking tape.
Alors, 10 ans plus tard, Diane Curis, il se passe, dans le film que vous filmez, Les Enfants du siècle, qui filme la passion entre George Sand et Alfred de Musset, il s'est passé sur le tournage ce qui se passait dans le film Un homme amoureux. Autrement dit, les deux acteurs, Juliette Binoche et Benoît Magimel, sont tombés amoureux sur le tournage.
Sous mes yeux ébahis, oui. Oui, oui. Et c'est un moment... c'est très fulgurant et c'est très fort et c'est très valorisant pour un metteur en scène quand tout à coup il se dit « Ah, bah, j'ai formé un couple. » C'est très... On est démurge, on est... Mais c'est très prétentieux de penser ça, parce que peut-être ils se seraient rencontrés sans moi, mais dans l'œil tourne la caméra, tout à coup, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je ne m'y attendais pas. Voilà, parce que Juliette, au départ, elle n'était pas complètement... je ne pense pas qu'elle est tombée amoureuse au premier regard de Benoît. Mais lui, oui, par contre, je crois. Et en tout cas, 15 jours ou 3 semaines après le début, personne ne saurait dater vraiment. À un certain moment, on a filmé une scène d'amour et là, on a compris, parce que quand la scène d'amour a été terminée, ils sont restés sur le lit qu'on avait construit. Et nous, on a fait une coupure. On a dit, bon, allez, on va faire une pause. Et ils sont restés là. Ils ont dit, on peut rester ? Bon, on a dit, bah oui, vous pouvez rester. Donc là, on avait compris qu'ils ne voulaient plus se quitter, quoi. C'était magnifique.
En dehors de cette scène d'amour, ça a changé quelque chose dans la façon que vous avez eu de filmer ou de faire le film ?
Bah, je pense qu'ils ont joué différemment à partir de là, avec encore plus d'intensité les baisers, les regards. C'était très, très, très beau à voir. C'était très touchant à voir. Et c'était très rassurant de dire bah, « je ne me suis pas trompée ». Voilà, ces deux-là, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a donné naissance à une petite fille en plus. Donc c'est une belle histoire, voilà. C'est une rencontre. Et c'est, voilà.
Bon, vous avez fini malade, hein, mais ce film était un peu difficile à tourner.
Le tournage a été très éprouvant.
Ouais, ouais. Merci Diane Curis.
Merci.
On se retrouve pour le 4e épisode, Un cinéma au féminin. On a commencé de donner quelques bribes de ces femmes libres, émancipées, et de vous comme cinéaste aussi, d'une certaine façon libre. On verra ça dans le prochain épisode. Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'était À Voix Nue avec Diane Curis. Réalisation Anne Pérez Franchini, prise de son Jérôme Casamayou, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.